des livres plein les oreilles. Bonjour, ici Clotilde Seille. Alors aujourd'hui à l'émission, Simon Boulris, l'infatigable, au téléphone, il sera, parce que comme toujours, entre deux émissions, deux pages ou encore deux splits. Yannick Olassa va nous rappeler que nous avons aussi une autre merveilleuse autrice en la personne de Myriam Baudouin. L'écume des jours de Boris Vian, oui évidemment ça vous dit quelque chose, mais lu par Arthur H., tel que ce fut le cas il y a maintenant quelques années, c'est sur audiolib.fr. Je vous présente également ce livre et si le temps nous le permet, je vais vous offrir aussi un ou plusieurs titres de livres audio à vous mettre entre les oreilles. C'est le temps de prendre des notes, mes amis, ou encore de vous brancher sur canalmvuesetvoix.com pour nous écouter ainsi qu'en bon vous semblera et pour vous procurer un ou plusieurs livres de notre collection de livres sonores qui, mine de rien, prend de plus en plus de volume, c'est le cas de le dire. Alors on commence tout de suite avec l'univers de l'ami Boulris, Simon Boulris. Et qui dit Simon Boulris dit cet énorme succès. Et Jeanne Moreau a le sourire à l'envers, alors pourquoi ne pas commencer par entendre Jeanne Moreau ?
Carl et Léonie se sont embrassés. Je ne sais pas comment réagir. Je comprends Carl d'avoir embrassé Léonie. Elle est tellement belle. Je comprends Léonie d'avoir embrassé Carl. Il ressemble à un jeune acteur américain. Mais je comprends pas pourquoi les deux ont fait ça, en sachant que j'existe et que ça risquait de me faire de la peine. C'est ça que j'avale difficilement. Je reviens avec Léonie en silence, presque. Sur le chemin du retour, elle me pose des questions, mais je réponds à demi-mot.
Est spéciale, Cathy.
Mm-hmm.
Elle a l'air d'une fille superficielle, non?
C'est pas.
Ça va, toi?
Mm-hmm. Je suis fatiguée, je pense.
Ça arrive.
Elle n'insiste pas plus. Peut-être qu'elle me croit, peut-être qu'elle sait que je sais qu'elle a embrassé Carl et qu'elle s'en fout. Peut-être qu'elle trouve ça normal d'embrasser deux gars différents en deux jours. Une fois arrivée, elle se réfugie dans la douche. Une longue douche qui me permet d'accuser le coup. Je dois avoir l'air un peu démoli car Antoine me regarde drôlement dans le cadre de porte de ma chambre. Déjà de retour? Mm-hmm. Léonie est pas là. Dans la douche. C'est elle qui est dans la douche depuis tantôt. Elle va vider la tinque à eau chaude si elle continue. Mm-hmm. Léon, je dois me laver les cheveux, moi, ce soir. La porte se barre plus. Tu peux rentrer puis lui dire? Sais-tu, je pense que je vais respecter son intimité. Sauf si elle se met à crier à l'aide. J'essaie de sourire, mais j'échoue. Je suis incapable de sourire.
C'est Notla d'Indiana Song, pardon, chantée par Jeanne Moreau. Évidemment, pour vous, pour tendre un plateau d'argent à l'ami maintenant qui vient nous rejoindre et qui est Simon Boulry. Salut Simon.
Bonjour Clathilde.
Simon, ça doit vous mettre le sourire à l'endroit, vous, de savoir que ce livre-là a été enregistré à Radio-Canada.
Absolument, oui, absolument, ça fait plaisir. Puis en plus, c'était des acteurs que j'aime beaucoup, que j'admire. Oui. Qui ont des très belles voix.
Donc, je voudrais redonner les noms, si vous me le permettez, Simon. C'est Émilie Bibeau, la voix féminine, et Olivier Morin. Voilà.
Exactement.
Mais quand même, question, parce que vous aussi, vous êtes comédien, tout ça, vous en avez des talents. Pourquoi c'est pas vous qui l'avez lu?
Ah, mais on ne me l'a pas demandé, tout simplement. Mais ça m'est arrivé, par contre.
Eh bien, c'est pas bien.
Ça m'est arrivé de lire certains de mes livres. Je suis apte à le faire.
C'est un livre qui vous colle à la peau. C'est un Jeanne Moreau, le sourire à l'envers. Souvent, quand on dit à une personne, Simon Boulry, pour toi, c'est quel livre? Le premier qui vient spontanément, c'est celui-ci. Hein?
Ben, en fait, ça dépend. Des fois oui, des fois non.
Ah non?
Je pense que j'ai... Ouais, j'ai l'impression que il y a quelques années, oui. Puis là, depuis que j'ai fait l'Enfant Mascara, j'ai l'impression que ça alterne.
C'est vrai.
On alterne un peu entre les deux.
C'est vrai. Alors, c'est un roman jeunesse où on fait connaissance avec Léon Renault. Je dis on fait connaissance parce qu'on va le retrouver un petit peu plus tard dans un autre de vos livres, également enregistré, qui est un adolescent finalement... assez normal, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on appelle un adolescent normal qui vit dans une famille qui a l'air aussi tout à fait normale. Il a toutefois une passion qu'ont peu d'adolescents parce qu'il aime la graphologie. Et puis alors, il a cette phobie des pellicules dont il veut à tout prix se débarrasser.
Oui, mais en fait, les pellicules, j'avais envie d'utiliser un truc qui a causé un désarroi dans mon adolescence, c'était les pellicules. Et je pense que...
J'aurais jamais osé vous demander, hein, Simon.
Ah oui, j'en ai eu beaucoup adolescent et je m'en débarrassais pas. Et j'essayais tous les shampoings possibles. Et je pense que dans la vie d'un enfant et d'un adolescent, il n'y a pas de petit drame. Pour lui, c'est un grand drame de ne pas trouver le bon shampoing et avoir une tête qui neige constamment. Ça le fascine, puis ça le dégoûte. Et donc, il croit que son plus grand drame dans sa vie, c'est avoir des pellicules, mais il y a beaucoup plus grave que ça. On va l'apprendre au cours du roman.
Au cours du roman, effectivement. Et là, j'en dirai pas plus parce que j'aime bien aussi que les gens le découvrent. Ce qui est certain, c'est qu'il entreprend une correspondance avec une Léonie,
oui.
Qui va amener finalement un premier amour. Il y a aussi, il y a beaucoup de très beaux personnages, comme toujours, je dirais, dans vos romans. Permettez-moi de passer à, par exemple, les paysages au néon. Celui-ci, je l'ai fini ce matin, moi. Alors, il est encore tout frais à ma mémoire.
Oui.
J'ai tellement aimé ça. Simon. Je le sais qu'il a été fait déjà il y a quelques années, mais je voudrais que les gens se souviennent de ce livre-là. On a toujours l'impression que vos personnages arrivent là où on ne les attend pas. Bon, là-dedans, évidemment, comme il y a ce gros musclé, lui, on s'attend à le retrouver dans une salle de gym, parce que c'est là que se passe la plupart des situations. Mais il y a par exemple cette fille délicieuse, cette grosse fille avec son coke diète, qu'effectivement, oui. On a du mal à imaginer là. Vous aimez le paradoxe, hein, Simon?
J'adore les paradoxes et oui. J'aime la complexité humaine. Alors, oui. J'aime beaucoup observer les gens et j'aime être étonnée par les gens. Et cette coiffeuse, elle a plusieurs noms qui ne sont pas les vrais noms, mais appelons-la Félindra, c'est comme ça qu'elle
oui,
s'appelle d'abord.
C'est ça.
Cette Félindra qui boit du coke diète en faisant son cardio dans un gym, j'ai trouvé ça très paradoxal. Et pourtant, j'ai vu cette femme, elle existe dans un gym. J'étais fascinée par ces calories qu'elle brûlait et qu'elle reprenait graduellement en buvant. Donc, elle s'hydratait de coke alors qu'elle faisait du cardio. Je trouvais ça fascinant et je trouve que l'être humain est fascinant. Donc, ces paradoxes humains, je les utilise puis je trouve que ça donne une épaisseur au personnage.
Ah, absolument. Et une poésie. Moi, c'est toujours ce qui me fascine dans vos bouquins. Et je trouve que c'est à votre image, Simon, parce que j'aime bien essayer, quand j'ai un invité, de me le définir pour mieux peut-être le définir aux autres. Et tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit que vous étiez un homme d'une incroyable contemporanéité, on peut dire ça, et en même temps, avec une poésie quasiment classique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Beaucoup, absolument, absolument. Et je pense que ça vient, justement, ça participe à ma complexité.
Ah.
J'ai grandi dans un club vidéo, dans un club vidéo en Montérégie, dans une petite ville où le cinéma de répertoire n'avait pas beaucoup de tribunes. C'était surtout des films, des films populaires, beaucoup de films américains. Donc, ça participait à créer ma mythologie. Mmh. Et en même temps, j'ai été appelée vers des œuvres un peu plus exigeantes. J'avais envie de m'ouvrir sur autre chose. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de respect d'où je viens, c'est-à-dire les histoires un peu plus consensuelles, conventionnelles. Et en même temps, je suis tirée vers la poésie. Depuis très jeune, j'aimais lire Rimbaud, j'aimais lire Saint-Denis Garneau, beaucoup, beaucoup Saint-Denis Garneau, qui avait une poésie simple, mais qui voyait dans la simplicité une poésie. Et j'aime beaucoup, en fait, braquer un projecteur sur les choses qu'on remarque un peu moins, les détails qui peuvent parfois émouvoir, surprendre ou ravir.
Comme par exemple ces morceaux de poésie que vous jetez sur les fiches des pseudo-athlètes qui viennent au gym pour maigrir. Et comme vous aimez, ça je le dis pour les auditeurs, le protagoniste, Léon, comme il adore prendre des notes, il n'a rien d'autre pour prendre des notes quand il lit des poésies, parce qu'il faut dire que pour lui, vélo stationnaire et poésie et lecture en général, ça va de pair. Hein. Voilà,
absolument.
Voilà.
Hein, oui.
Ça, c'est fantastique. Il a appris dans le sous-sol de ses parents à faire du vélo stationnaire et en même temps, il en faisait parce que ça le faisait lire. Et comme quand il change d'appareil, là encore, je parle à mes auditeurs, quand il change d'appareil, c'est pas facile avec un livre. Alors, il y a quelqu'un qui lui suggère, qui lui dit, bah, regarde, lis donc de la poésie, comme ça, tu pourras changer d'appareil facilement et tu vas pas interrompre quelque chose. Et alors, il prend des notes sur ses fiches. Et il y a, moi, ça m'a tiré les larmes. À la fin, on vous impose de les gommer. Parce que finalement, elles dérangent.
Oui, absolument.
Ah, c'est fort.
C'était perçu comme des graffitis, des graffitis poétiques, mais comme c'est une forme de vandalisme sur les fiches d'entraînement des autres membres du gym. Et c'est vrai que c'est triste de gommer, d'effacer cette poésie-là. En fait, lui, il se voit comme un sommeur de poésie sur des gens qui parfois n'ont pas accès à la poésie.
Oui.
Et pourtant, moi, ce que j'aimais de cette idée-là, parce que quand je fais du cardio, je lis personnellement moi-même, là, je fais ça. Et je trouve que la poésie, ça se prête bien, véritablement, parce que c'est un rythme qui est plus assuré. D'ailleurs, on le dit dans le mot poésie, il y a une musicalité, hein, il y a un rythme, et souvent les mots respirent sur la feuille. Donc, lire un roman dense, parfois, c'est peut-être pas à propos.
Exactement.
Mais lire la poésie, ça respire et ça permet, donc en courant, moi je pense que ça s'y prête bien. Et donc, il recopie les plus beaux vers sur les fiches d'entraînement des autres et on va devoir retirer.
Et là, on lui fait gommer. Pour finir aussi, il y a la poésie, mais vous aimez aussi la correspondance. Ça revient régulièrement, entre autres dans Le dernier qui sort éteint la lumière. Cette correspondance fantastique que vous avez créée, ces 13 lettres écrites par deux papas qui ont envie d'offrir en cadeau à leurs jumeaux, à un garçon et une fille, de leur faire savoir qui ils sont et qui est leur vrai papa. Et ça, évidemment, on ne dira pas la fin, là. Ah, c'est fond. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a les correspondances entre Léon et Léonie. Et il y a les correspondances entre ces papas et leurs enfants. C'est papa gay, hein, puisque c'est un couple gay. Et là aussi, il y a une poésie, même dans la façon dont les enfants lisent les lettres. Vous êtes quelqu'un de bien, Simon Boulris.
mais je suis heureux que vous fassiez un lien entre ces deux romans-là, parce que je réalise à quel point que la graphologie et la calligraphie, ça fait partie de mon ADN. Parce qu'en fait, je le dis souvent, mais c'est tout à fait vrai, j'ai commencé l'écriture suite à un quiproquo, un malentendu entre ma professeure et moi. Elle m'avait dit que j'écrivais bien. Et elle parlait de ma calligraphie. Et moi, je pensais que j'étais un écrivain. Oh! Donc, c'est le double sens qui a fait germer en moi l'envie d'écrire. Et j'ai toujours une calligraphie très appliquée, où j'étais un peu dans... J'enjolivais beaucoup. Là. Il y avait beaucoup de fioritures dans mon écriture. Je me suis beaucoup dénudée avec le temps. Mais je trouve ça beau parce que, très jeune, j'ai eu des correspondants à une époque où c'était très, très courant, là, dans les années 90, écrire des lettres. Et je trouve qu'on a perdu l'acte d'écrire à la main, qui révèle beaucoup de notre identité. Et je trouve ça beau chaque fois que je vois une petite trace. Quelqu'un qui m'écrit un mot, écrit à la main, je ne peux pas m'empêcher, je dois le conserver. Toujours, je conserve tous les mots écrits à la main, alors que tout ce qui est dactylographié, tout ce qui est imprimé, on est entouré de ça.
Mais
donc,
oui.
Ça n'a pas la même valeur aujourd'hui.
Alors, vous n'allez pas gommer tous ces mots que vous avez autour de vous. Simon Boulris, vrai bonheur de vous recevoir. Je voudrais rappeler que Jeanne Moreau a le sourire à l'envers, se retrouve à Radio-Canada en livre audio. Sinon, Paysage au néon et Le dernier qui sort éteint la lumière se retrouve en livre adapté au SQLA. Merci beaucoup, Simon Boulris.
C'est un plaisir et merci pour votre grande rigueur de lectrice. Merci.
Oh, c'est gentil. Ça me touche beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.
On ne devrait permettre que les lettres d'amour. On ne devrait écrire que pour dire bonjour. Parlons pas des circulaires, des formulaires, de tous ces papiers qui réclament plus qu'ils ne donnent, qui nous soupçonnent de ne jamais payer. Oublions aussi les images, tous ces mirages, bonheurs à crédit. Tous ces cadeaux, ces catalogues, toutes ces drogues, ces faux paradis. On ne devrait permettre que les lettres d'amour. On ne devrait écrire que pour dire bonjour. Je sais qu'il y a des pratiques quasi magiques pour communiquer. Et ça cliquette et ça clignote et ça pianote, c'est pas compliqué. Je pourrais en faire la liste, mais je résiste, car j'ai dans l'idée que ma chanson à peine écrite, ça va si vite, elle serait démodée. On ne devrait permettre que les lettres d'amour. On ne devrait écrire que pour dire bonjour. Je veux parler de ces missives, de plumes vives, comme un cauchemar. Ces lettres qui vous assassinent jusqu'aux racines, bien mieux qu'un poignard. Les mots durs qui sont en paroles, on s'en console, les yeux dans les yeux. Mais dès qu'ils sont sur une page, ces grands saccages, c'est comme du feu. On ne devrait permettre que les lettres d'amour. On ne devrait écrire que pour dire. ces colères qui nous encombrent, chagrins sans nombre, qui nous font pleurer. Pourquoi pas se les dire en face, ça fait des traces qu'on peut effacer. À condition qu'on se réponde, qu'on lâche la bonde, que l'amour y soit. Oh, que ma main se paralyse avant qu'on lise une lettre de moi. On ne devrait permettre que les lettres d'amour. On ne devrait écrire que pour dire bonjour. On ne devrait permettre que les lettres d'amour. On ne devrait écrire que pour dire bonjour. Bonjour, est-ce que ta vie est belle? Bonjour, et comment va ton cœur? Bonjour, j'attends de tes nouvelles. Bonjour, et n'aie plus jamais peur.
On ne devrait écrire que des lettres d'amour. Et ça nous amène bien dans l'univers de Myriam Baudouin, ça. Yannick-Olas, bonjour.
Bonjour, tout à fait, c'est très raccord.
Ah, c'est très raccord, hein, dans 33 chemins de la baleine dont je voudrais que vous nous parliez aujourd'hui.
Oui, en fait, 33 chemins de la baleine, le troisième roman de Myriam Baudouin, parle d'une histoire d'amour qui s'est passée dans les années 50. Et comment elle nous amène ça, en fait, c'est que il y a un jeune homme dans la trentaine, Jacques Lenoir, qui va voir Eva, qui est une dame qui vit seule, qui est seule et qui vit en centre d'accueil. Il vient pour lui apporter un cadeau. Et ce cadeau, c'est une boîte de lettres qu'il a trouvée dans la maison de son père décédé.
Des lettres d'amour, hein?
Oui, des lettres d'amour. Son père était O'Neill Lenoir, un auteur connu dans l'histoire. Et comme la vieille dame ne peut lire, il revient fréquemment lui faire la lecture. Et Eva a, en fait, elle a clairement perdu certaines de ses facultés. Ah. Elle est un peu confuse, mais elle a une impression de déjà-vu en entendant les lettres, parce qu'elle aussi, elle a aimé un O'Neill Lenoir, un mari auteur qui est parti pour écrire pendant quelques mois et qui n'est jamais revenu. Alors, c'est un très, très beau livre.
Triste, hein, je pense. Hein, c'est pas, on est quand même un petit peu dans la boîte de Kleenex. Hein,
oui, c'est sûr. Hein, c'est très touchant.
C'est touchant.
Beau, c'est poétique. On parle d'amour, de douleur, de peine, de solitude aussi. Je vous en lis un extrait, là, l'extrait d'une lettre. J'ai pris la plus courte.
Il n'y a aucun problème.
Dans la nuit du 1er mars 1953, mon grand Neil d'amour, sur la place royale, la lumière jaune du lampadaire présente une scène intime de cinéma. Il tombe des peaux de lièvre sur les tuques de deux amoureux enlacés. À part eux et moi, tout le monde dort. Même les Whites, ces jeunes Anglais fous en face. Notre rue est calme comme je l'aime. Et l'hiver progresse. Bientôt, le Saint-Laurent ne sera plus assez profond pour entasser toute la neige des paroisses. Tu auras reconnu mon papier beige et or, ainsi que ton adresse calligraphiée de ma main fidèle. Peut-être éprouveras-tu quelques difficultés à déchiffrer ma lettre, car j'écris sur mes cuisses. Dans un mois et demi, tout au plus, ce sera ta tête que je tiendrai sur moi. Je promènerai mes doigts dans tes cheveux. Je te baiserai le front et tu dormiras paisiblement sur les genoux étroits de ton Eva. Je n'attendrai plus l'arrivée du facteur. Je n'aurai plus le cœur éraflé en apprenant qu'il n'y a encore rien pour moi. Tu seras là tous les jours, toutes les nuits. Je ne suis pas couchée, le besoin de t'écrire me tient éveillée. Je me joue des tours et feins d'être près de toi. J'ai allumé une chandelle, ta chevelure tombe sur mes bas. Tu m'aimes autant que le matin de nos fiançailles et ce sont tes yeux de tigre jaloux qui en témoignent. Je te cause et tu écoutes ma voix d'ange sous ton bras qui s'étire et me caresse les reins. Je me cambre car tes doigts me donnent le frisson. Tu es enfin revenu et ne repartiras plus jamais. Tu me le dis. Afin de me le prouver, tu promets que Simone jettera tes mâles. Je me penche sur toi pour te rendre grâce. J'ouvre mes lèvres douces et roses et t'offre ma langue. Tu l'accueilles comme un roi, tu la mords, tu la tournes, la retournes, tu dis « elle goûte le raisin ». Mon île chérie, mon grand intellectuel, mon voyageur, mon étranger, ma vie, je ne suis rien sans toi. J'ai bu plusieurs coupes de vin, c'est Grand Bois qui me les a servies. C'est lui qui a tenté de me faire oublier ton absence. Il n'a pas réussi. Je suis de retour chez nous après une longue soirée au Montmartre. Mon manteau de fourrure gorgé de cristaux de neige mouille notre tapis Blue Nose. Je n'ai pas la force d'aller le pendre. Las, je cherche l'odeur de ton cou dans l'étoffe du sofa. Je pleure comme une enfant, oui, au nez. Je pleure comme la toute petite Eva que j'étais et de langueur mes joues sont noyées. Sais-tu ce que c'est que d'être privé de l'homme qu'on aime plus que soi-même? Reviens-moi, ta femme.
Très touchant. Très touchant comme lettre extraite de 33 Chemins de la baleine de Myriam Baudouin qui vient de sortir un livre il y a quelques semaines. Je voyais ça, oui. Ça s'appelle Épiphanie. Hein?
Épiphanie, oui.
C'est ça. Et puis, écoutez, on n'a plus beaucoup de temps, hein, peut-être une petite minute, mais je voudrais signaler que OSQLA, en version adaptée, il y a aussi Hadassah, ça s'écrit H-A-D-A-2-S-A. Est-ce que vous avez lu ce livre-là de Myriam Baudouin aussi?
Oui, j'ai lu ce livre-là. En fait, c'était le précédent. C'est un roman sociologique où on va, en fait, à la rencontre de la communauté juive orthodoxe de Montréal.
C'est ça. Voilà, parce qu'elle elle est professeure de français, je pense, hein, dans un établissement, c'est ça. Exactement. Bon, ben écoutez, ce sont deux livres, et surtout, c'est une auteure dont on parle peut-être moins que d'autres, et c'est pour ça que j'avais envie, et j'étais contente d'ailleurs, que vous ayez eu l'idée de me soumettre ce nom-là pour l'émission des livres pleins les oreilles. Je vous en remercie beaucoup, Yannick Olassa.
C'est un plaisir.
Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve prochainement.
À bientôt.
À bientôt. C'est Clotilde Seille à l'émission des livres pleins les oreilles. Restez des nôtres en seconde partie. Notre classique du jour concerne Boris Vian, lu par Arthur Ashe. Et puis j'ai quelques propositions, oh, je vous rassure, très très honnêtes à vous faire. Il s'agit de livres audio. Des livres pleins les oreilles, la suite. Clotilde Seille au micro. Je vous propose un bouquet de nouveautés audio à découvrir sur une plateforme ou sur une autre. On va commencer avec un bon classique, tout ce qu'il y a de plus contemporain, L'écume des jours. C'est lu par Arthur Ashe et on retrouve ça chez Audiolib. Pour mettre la table, Arthur Ashe va chanter pour vous et va lire pour vous un extrait de L'écume des jours.
Tu me cambrioles, je te vise, Tu me cibles, je me rends, tu me descends. Oh, tu m'as encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Oh, oh. Je te hausse, tu me noies. Je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines. Je te démon, tu me divines. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grand large, je te détache, tu me dérives. Oh, tu m'as encore, oh, tu me tues, assassine de la nuit.
L'écume des jours de Boris Vian, lu par Arthur H. Vous avez raison, Nicolas. À votre avis, dois-je rencontrer l'âme sœur aujourd'hui? Je voudrais une âme sœur du type de votre nièce. Monsieur a tort de penser à ma nièce, dit Nicolas, puisqu'il a peur des événements récents que Monsieur Chic a fait son choix le premier. Mais Nicolas, dit Colin, j'ai tant envie d'être amoureux. » Une fumée légère s'échappa du bec de la bouilloire et Nicolas alla ouvrir. Le concierge montait deux lettres. « Il y a du courrier ?» dit Colin. « Je m'excuse, monsieur, » dit Nicolas, « mais les deux sont pour moi. Monsieur attend-il des nouvelles ?»« Je voudrais qu'une jeune fille m'écrivît, » dit Colin. « Je l'aimerais beaucoup. » « Il est midi. » conclut Nicolas. Monsieur désire-t-il son petit déjeuner? Il y a de la queue de bœuf broyée et un bol de punch aux aromates avec croûtons beurrés d'anchois. Nicolas, pourquoi Chic ne veut-il pas venir ici déjeuner avec votre nièce, à moins que je n'invite une autre jeune fille? Monsieur m'excusera, dit Nicolas, mais j'en ferai autant. Monsieur est certainement assez beau garçon. Nicolas, dit Colin. Si ce soir je ne suis pas amoureux pour de vrai, je collectionnerai les œuvres de la duchesse de Beauvoir pour faire pièce à mon ami Chic.
Cette voix si particulière qu'il a, Arthur H., et qu'il avait donc prêtée aux mots de Boris Vian. Il y a maintenant quelques années, ça avait été enregistré en 2009, je pense, et Audiolib, cette semaine, sur sa page d'accueil, nous recommande de nous replonger dans cette littérature classique. Au sujet de ce texte de Boris Vian, j'ai trouvé, malheureusement, il n'y avait pas de nom, mais j'ai trouvé un avis d'un lecteur, pas identifié donc, qui se posait cette question sur le net. Que dirait Boris Vian en apprenant que l'écume des jours figure désormais parmi les classiques de la littérature française que l'on étudie en classe? Quelle ironie du sort pour celui qui tenait tant à s'en démarquer. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, nous dit ce lecteur. Nous sommes en 1947. Alors l'écume des jours, c'est vraiment un texte très très inattendu pour cette époque dans le paysage littéraire. Cette histoire farfelue qui met en scène des duos amoureux, étonnamment moderne pour l'après-guerre, des néologismes à foison. Hein. On sait que Boris Vian était très féru de langage et qu'il aimait improviser des mots qui lui appartenaient. Une caricature outrée aussi des structures sociales et des courants de pensée de l'époque. Des personnages qui évoluent dans une ambiance parfois lumineuse, mais parfois très glauque et souvent étrange. Et c'est un petit peu comme une chorégraphie aussi imprévisible qu'un solo de jazz qui lui va bien à Boris Vian, lui qui était le trompettiste que nous connaissons aussi. Alors, c'est bizarre d'ailleurs parce qu'après l'univers de l'ami Boulry, Simon Boulry, on tombe à nouveau là encore dans des amours adolescentes qui ne peuvent que vous retoucher. J'aurais aimé pouvoir vous présenter une entrevue avec Arthur H. qui a lu ce bouquin-là, mais le monsieur est pas mal occupé en ce moment en France. J'ai vu son agenda, il est en tournée. Et quand on fait une tournée en France, c'est quasiment 5 dates par semaine. Alors, j'espérais là qu'il puisse répondre au téléphone entre deux. Ça n'a pas été possible, mais on entendra quand même Arthur H. Je vous propose un petit bout, un extrait d'une entrevue exclusive qu'il a proposée à Audiolib. Donc, sur le site d'Audiolib, si vous allez vous procurer ce livre, vous pourrez vous aussi écouter l'intégrale de l'entrevue qu'a donnée Arthur H. au sujet de l'écume des jours de Boris Vian.
Qu'on lit un texte, il y a quand même une forme d'effort cérébral qui n'existe pas quand on l'écoute. Et moi, mon amour profond pour les histoires, pour ce qu'il y a de merveilleux dans les histoires, quelle que soit l'histoire, même si elle n'est pas merveilleuse, c'est le fait que ma mère m'a énormément lu à voix haute pendant des années, en fait. Tous les soirs, elle me lisait un chapitre d'un livre qui m'a vraiment donné le goût de la lecture. Et mon père, qui lui était plus un improvisateur, a improvisé aussi des dizaines et des dizaines d'histoires. Donc après, je me suis vengé, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Et c'est vrai que quand tu écoutes une histoire comme ça, tu peux vraiment complètement t'abandonner aux images sans résistance. Et j'ai complètement redécouvert L'écume des jours, qui est un texte très riche, quoi, vraiment, avec plein d'aspects différents. Il y a une grande sensibilité, déjà émotionnelle, de la part de Vian. Beaucoup de fraîcheur, comme ça, quelque chose de très juvénile. Il y a un côté aussi assez politique, quoi, il exprime bien ses idées aussi. Il se fout bien de la gueule de Sartre. La manière dont il parle du travail et l'usine, on sent bien que c'est ce qu'il pense, quoi. Il y a un côté aussi très, très dur, très comme ça, presque cruel. Il y a le côté complètement surréaliste avec ces images qui sont vraiment magnifiques. Enfin, c'est vraiment... J'ai oublié que c'était un livre aussi riche que ça.
Et peut-être que vous aussi, vous l'avez oublié. Alors c'est une bonne occasion de vous remettre L'écume des jours de Boris Vian en mémoire. Je vous rappelle que ça se retrouve entre autres sur la plateforme commerciale audiolib.fr, mais il y a aussi une version qui existe en format adapté accessible au SQLA. On va changer d'ambiance, on va se faire peur un peu. Mais juste avant, Alain Leprest.
J'ai peur des rues, des quais du sang, des croix de l'eau, du feu des becs, d'un printemps fragile et cassant, comme les pattes d'un insecte. J'ai peur de vous, de moi, j'ai peur des yeux terribles des enfants, du ciel des jours, des fleurs, de l'heure, des mets de vieillir et du vent. J'ai peur de l'aile des oiseaux, du noir, du silence et des caries. J'ai peur des chiens, j'ai peur des mots et de l'ongle qui les écarie. J'ai peur des notes qui se chantent, j'ai peur des sourires qui se pleurent, des loups qui hurlent dans mon ventre. Quand on parle de lui, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur des cœurs, des pleurs, de tout, la trouille, les foies, la pétoche, les dents qui claquent et les genoux qui tremblent dans le fond des poches. J'ai peur de deux et de fond quatre, de n'importe quand, n'importe où, de la maladie délicate qui plante ses crocs sur tes joues. J'ai peur du souvenir des voix tremblant dans les magnétophones. J'ai peur de l'ombre qui convoie des poignées de feu vert l'automne. J'ai peur des généraux du froid qui foudroient les pies sur le champ, et de l'orchestre du Nord-Roi sur la barque des pauvres gens. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de tout seul et d'ensemble, et de l'archer du violoncelle. J'ai peur de là-haut dans tes jambes, et d'une étoile qui ruisselle. J'ai peur de l'âge qui dépaisse, de la pointe de son canif, le manteau bleu de la jeunesse, la chair et les baisers à vif. J'ai peur d'une pipe qui fume, j'ai peur de ta peur dans ma main, l'oiseau lyre et le poisson lune, l'éclair pierre du chemin. J'ai peur de l'acier qui hérisse, le mur des lendemains qui chante, du ventre lisse où je me hisse et du drap glacé où je rentre. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de pousser la barrière de la maison des églantines, où le souvenir de ma mère berce sans cesse un berceau vide. J'ai peur du silence des feuilles qui prophétisent le terreau, la nuit ouverte comme un œil retourné au fond du cerveau. J'ai peur de l'odeur des marais palpitante dans l'ombre douce. J'ai peur de l'aube qui paraît et de mille autres qui la poussent. J'ai peur pour tout ce que je sers inutilement dans mes bras, contre l'horloge nécessaire du temps qui me les reprendra. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur.
Le regretté Alain Leprest sur les ondes de Canal M et Clotilde Seille qui vous présente des livres plein les oreilles, oui. Et en voici des livres à vous mettre plein les oreilles, entre autres Coup de gigot et autres histoires à faire peur. Déjà le titre, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, oh, faut que j'aille voir de que c'est qu'il s'agit. Ça vient de paraître en audio chez Gallimard, collection Écoutez lire, c'est vraiment tout récent, c'est sorti il y a à peine un petit mois. Alors Coup de gigot et autres histoires à faire peur de Rowe de Dole, pour ceux qui apprécient l'humour de ce monsieur Dole, D-A-L-H-L, donc vous l'aurez compris, c'est une traduction. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette histoire? Qui pourrait croire que cette dernière, cette paisible ménagère, si tendre et si attentionnée avec son mari, qui pourrait penser que derrière cette paisible ménagère se cache une terrible meurtrière? Et cette logeuse débordante d'amabilité et de gentillesse, comment ne pas lui faire confiance? Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses. Alors voici quatre histoires à l'humour plutôt macabre dont la lecture vous fera frémir, nous dit-on, tour à tour, ironique et malicieux. Claude Aufort nous raconte ses délectables histoires à faire peur. De sa voix timbrée, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez l'entendre, servie par une diction parfaite, c'est vrai également. Il nous entraîne sur des chemins entre rire et grincement de dents, extrait de Coup de gigot.
Dans ces rideaux tirés, la chambre était chaude et propre. Les deux lampes éclairaient deux fauteuils qui se faisaient face et dont l'un était vide. Sur le buffet, il y avait deux grands verres, du whisky, de l'eau gazeuse et un seau plein de cubes de glace. Mary Meloni attendait le retour de son mari. Elle regardait souvent la pendule, mais elle le faisait sans anxiété, uniquement pour le plaisir de voir approcher la minute de son arrivée. Son visage souriait. Chacun de ses gestes paraissait plein de sérénité. Penchée sur son ouvrage, elle était d'un calme étonnant. Son teint car c'était le sixième mois de sa grossesse, était devenu merveilleusement transparent. Les lèvres étaient douces et les yeux, au regard placide, semblaient plus grands et plus sombres que jamais. À 5h05, elle se mit à écouter plus attentivement et au bout de quelques instants, exactement comme tous les jours, elle entendit le bruit des roues sur le gravier. La porte de la voiture claqua, les pas résonnèrent sous la fenêtre, la clé tourna dans la serrure, elle posa son ouvrage, se leva et alla au-devant de lui pour l'embrasser. « Bonjour chérie, » dit-elle.
Quelle voix quand même, je suis sûre que vous êtes comme moi. Quand je suis arrivée au bout de cet extrait, je me suis dit « Oh non, j'en veux plus. » « Alors vous en voulez plus ? Allez, je poursuis. »« Bonjour. » répondit-il. Elle lui prit son pardessus et le rangea. Puis elle passa dans la chambre et prépara les whisky, un fort pour lui, un faible pour elle-même. De retour dans son fauteuil, elle se remit à coudre, tandis que lui, dans l'autre fauteuil, tenait son verre à deux mains, le secouant, en faisant tinter les petits cubes de glace contre la paroi. Pour elle, c'était toujours un moment heureux de la journée. Elle savait qu'il n'aimait pas beaucoup parler avant d'avoir fini son premier verre. Elle-même se contentait de rester tranquille, se réjouissant de sa compagnie après ses longues heures de solitude. La présence de cet homme était pour elle comme un bain de soleil. Elle aimait par-dessus tout sa mâle chaleur, sa façon nonchalante de se tenir sur sa chaise, sa façon de pousser une porte, de traverser une pièce à grands pas. Elle aimait sentir se poser sur elle son regard grave et lointain. Elle aimait la courbe amusante de sa bouche et surtout cette façon de ne pas se plaindre de sa fatigue, de demeurer silencieux, le verre à la main.
« Fatiguée, chérie ?»«
Oui, dit-il, je suis fatiguée. » Puis il fit une chose inhabituelle, il leva son verre à moitié plein et avala tout le contenu. Elle ne l'épiait pas réellement, mais le bruit des cubes de glace retombant au fond du verre vide retint son attention. Au bout de quelques secondes, il se leva pour aller se verser un autre whisky.
« Ne bouge pas, j'y vais !»
s'écria-t-elle en sautant sur ses pieds. « Rassieds-toi » dit-il. Lorsqu'il revint, elle remarqua que son second whisky était couleur d'ambre foncé.
« Chérie, veux-tu que j'aille te chercher tes pantoufles ?»«
Non. » Il se mit à siroter son whisky. Le liquide était si fortement alcoolisé qu'elle put y voir monter les petites bulles huileuses.
« C'est tout de même scandaleux, dit-elle, qu'un policier de ton rang soit obligé de rester debout toute la journée. »
Comme il ne répondait pas, elle baissa la tête et se remit à coudre. Mais chaque fois qu'il buvait une gorgée, elle entendait le tintement des cubes de glace contre la paroi du verre.
« Chérie, veux-tu un peu de fromage ? Je n'ai pas préparé de dîner puisque c'est jeudi. »
« Non, dit-il.
« Si tu es trop fatiguée pour dîner dehors, reprit-elle, il n'est pas trop tard, il y a de la viande dans le réfrigérateur. Tu pourrais manger ici même sans quitter ton fauteuil. »
Ses yeux attendirent une réponse, un sourire, un petit signe quelconque, mais il demeura inflexible.
« De toute façon, dit-elle, je vais commencer par t'apporter du fromage et des gâteaux secs. »
« Je n'y tiens pas, dit-il. » Elle s'agita dans son fauteuil, ses grands yeux toujours posés sur lui.
« Mais tu dois dîner. Je peux tout préparer ici. Je serais très contente de le faire. Nous pourrions manger du rôti d'agneau ou du porc, ce que tu voudras. Tout est dans le réfrigérateur. »
« N'y pense plus, dit-il.
« Mais chérie, il faut que tu manges. Je vais préparer le dîner, puis tu mangeras ou tu ne mangeras pas. Ce sera comme tu voudras. »
Elle se leva et posa son ouvrage sur la table près de la lampe. « Assieds-toi, dit-il. J'en ai pour une minute. Assieds-toi. » C'est alors qu'elle commença à s'inquiéter. « Assieds-toi, répéta-t-il. Elle se laissa retomber lentement dans son fauteuil, ses grands yeux étonnés, toujours fixés sur lui. Il avait fini son second whisky et regardait le fond de son verre vide en fronçant les sourcils. « Écoute, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. »«
Quoi donc, chérie ? Qu'y a-t-il ? »
À présent, il se tenait absolument immobile, la tête penchée en avant. La lampe éclairait la partie supérieure de son visage, laissant la bouche et le menton dans l'ombre. Elle remarqua le frémissement d'un petit muscle près du coin de son œil gauche.
Cet extrait de Coup de gigot sur Audiolib. I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey, as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cat. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. Follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lake. I go to opera and stay wide awake. That's why the I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lap. That's why the lady is a trap.
L'émission de Livres plein les oreilles, vous le savez, se consacre presque exclusivement, non que dis-je, exclusivement aux livres audio, pas seulement les livres adaptés, mais aussi les livres commerciaux. Il m'arrive souvent de parler de Audible, Audiolib, Gallimard Audio, Radio-Canada, Livres audio. Mais vous savez qu'il y a une autre, il y a une autre plateforme importante et qui diffuse abondamment de nos livres, et je pense à Apple et à son application d'e-books, où vous pouvez, par exemple, cette semaine, retrouver quelques-uns des bouquins lus chez Vues et Voix sous la rubrique Nouveautés. C'est le cas de Terminal Grand Nord d'Isabelle Lafortune. Souvenez-vous, j'ai reçu Isabelle à cette émission il y a quelques semaines, ainsi d'ailleurs que Marie Gray pour Il était une voix. Et il y a une autre autrice chroniqueuse que je n'ai pas eu l'occasion de recevoir parce qu'elle est trop occupée. Elle a malheureusement dû décliner cette invitation-là. Mais son livre audio se retrouve aussi sur toutes ces plateformes de livres commerciaux. C'est Rosalie Bonenfant et son célèbre « La fois où j'ai écrit un livre ». Un livre d'ailleurs qu'elle a enregistré ici chez Vues et Voix. Alors, je pourrais vous en parler, mais j'aime mieux laisser Rosalie avec sa façon bien à elle de dire les choses. Elle va nous partager l'aventure de ce bouquin.
L'année dernière, alors que j'étais encore à l'aube de ma vingtaine, j'ai noté sur un bout de papier les trois principaux buts que je tenais à atteindre dans cette décennie-là. Partir explorer une fraction du monde en pack-sac par moi-même, emménager en appartement, publier un livre. Aussi impatiente qu'impulsive, j'ai rayé les deux premiers énoncés dans les 6 mois qui ont suivi. Paumée, mais bronzée, je travaillais sur le plancher de mon salon pas encore meublé quand j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. C'était le chauffeur de Uber Eats qui m'annonçait que mon tofu général Tao venait de m'être livré. Bref, toujours est-il que j'ai oublié précisément quand, mais quelque part dans cette période-là, on m'a proposé de publier le recueil de toutes mes chroniques préalablement rédigées pour la radio. L'écologiste en moi a pas eu à se faire prier très longtemps avant d'accepter. J'étais ravie à l'idée de pouvoir composter mes vieilles idées. Nanani, naner, c'est pour ça que vous avez payé. Ben quoi? Il n'y a rien de mal avec le recyclage. Pourquoi s'opposer au concept des mots de seconde page? Mon souhait, en assemblant toute cette courte pointe d'émotion, c'était d'offrir un ouvrage accessible et sans prétention. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de garder une portion de l'oralité que j'ai prêtée aux mots en les livrant à la radio. Pour vous situer, mon ton est souvent sarcastique, cynique ou ironique. Donc, soyez pas surpris de tomber sur certains textes qui piquent. Voilà! Le troisième vœu de ma vingtaine est maintenant exaucé. À cause de vous, je suis déjà obligée de me trouver des nouveaux objectifs à atteindre. Oh. En attendant que je décide de quoi je vais remplir mes prochaines années, j'espère que quelque part entre ma féroce douceur et mes révélations crève-cœur, vous trouverez, vous aussi, votre couleur. Je vous conseille fortement le nouveau rouge de préférence. Bonne écoute!
Ça s'appelle « La fois où j'ai écrit un livre », c'est signé Rosalie Bonenfant. Ça se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de livres audio, dont notamment, bien sûr, la nôtre, livre sonore, au singulier, vuesetvoix.com. Merci à mes invités du jour, Simon Boulris et Yannick Olassa. Merci à Jean-Sébastien Laliberté d'avoir assumé la partie technique de cette émission. C'était Clotilde Say qui vous remercie d'avoir été là et qui vous dit à la semaine prochaine. Bonne lecture.